MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Et ça y est, c'est l'heure de conclure cette deuxième journée au MIPIM 2025. Et pour conclure, j'ai le plaisir de recevoir Richard Mal. Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors vous êtes administrateur de l'ORIE, on va discuter de l'ORIE prochainement. Vous êtes également professeur des universités associées au CNAM et directeur stratégie chez Colliers International.
Parfait.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. On va discuter de l'ORIE, on va discuter de son rôle. C'est un organe public-privé qui regroupe les acteurs de l'immobilier en Île-de-France et qui a révélé officiellement le 11 février dernier que jusqu'à 150 000 logements pourraient être créés à l'occasion de la restructuration et ou la démolition de bureaux obsolètes.
Totalement, oui. Alors oui, donc le but, qu'est-ce qu'on s'est posé comme question, c'était que faire de ces millions de mètres carrés de bureaux vacants.
Voilà. Exactement.
Déjà, voilà, partons du constat, on est aujourd'hui à 5,6 millions de mètres carrés de bureaux vacants, 10% de taux de vacances, deux fois plus qu'il y a 5 ans, en 2020, et ça va encore progresser. Voilà. De combien, je ne peux pas vous dire, mais potentiellement 10 millions de mètres carrés n'est pas un niveau aberrant à avoir dans 5 ans, d'autant plus si on ne fait rien.
Ouais.
C'est largement trop.
Okay.
Et ça ne se fera pas tout seul si on a besoin de faire décroître ce taux de vacances et cette offre. Et donc, l'une des idées, bah, ça a été la reconversion, passer ces bureaux vacants, désormais obsolètes, dont maintenant les utilisateurs ne veulent pas forcément pour des raisons technique, mais aussi potentiellement de localisation, en faire autre chose, et notamment du logement, parce que dans le même temps, on a un manque cruel de logement en Île-de-France.
Ce que j'allais vous dire, ça tombe bien, on vit une crise du logement, alors j'allais dire sans précédent, si, il y a eu des précédents, mais qui est quand même bien, bien forte.
Clairement.
Et donc ça, ce serait clairement une solution, effectivement, utiliser ces mètres carrés de bureaux vacants pour les transformer en logement. C'est une chose qu'on entend beaucoup sur ce salon MIPIM. Ça a été évoqué hier par la ministre du Logement, Valérie Létard, qui a dit qu'elle ferait tout pour faciliter cette transformation, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques points de blocage.
Clairement. Oui, et les mesures vont dans le bon sens. C'est déjà, on voit que le sujet commence à être intéressé et à être pris en main. Et d'ailleurs, l'étude qu'on a fait paraître, hein, qu'on a publiée début février, est d'ailleurs bien relayée dans les médias, et notamment aussi les médias grand public, pas uniquement immobilier.
Bien sûr, c'est un thème qui parle au grand public.
Clairement, et donc il y a une prise de conscience qui est collective, et le public commence à nous écouter, nous accompagner là-dessus.
Pourquoi est-ce que ça bloque aujourd'hui, cette transformation de bureaux en logement?
Plusieurs raisons, et notamment, comment on a construit l'indicateur?
Ouais.
On l'a construit via trois critères. D'une part, la dynamique tertiaire. Qu'est-ce que c'est la dynamique tertiaire? On prend en compte l'offre de bureaux dans un territoire donné, divisé par la consommation moyenne du marché, et à ça, on associe le taux de vacances. Donc, il faut déjà que la dynamique tertiaire soit favorable au recyclage.
Ouais.
Et si on a un marché qui est très dynamique d'un point de vue tertiaire, et donc avec peu de vacances, notamment comme à Paris intramuros, il va être compliqué de recycler du bureau en logement si le bureau est déjà très demandé et voire même sous-offreur.
À partir de quand on considère qu'un immeuble de logement de bureau vide est dans des bonnes conditions pour être requalifié en logement?
Lorsqu'on a un marché qui a un taux de disponibilité de plus de 3 ou 4 ans, on peut considérer que ce marché-là est en suroffre et donc il y a un bon potentiel de recyclage d'un point de vue dynamique tertiaire.
C'est ça, donc je suis dans une ville, n'importe quelle ville, j'ai une tour de bureau qui est vide, ça fait 3-4 ans qu'elle est vide, c'est bon, on peut commencer à penser à un projet de réhabilitation en logement.
Il faut se poser la question d'un point de vue marché tertiaire.
Ouais.
Dynamique tertiaire, c'est bon.
Okay.
Après,
deuxième point,
la dynamique résidentielle.
Oui.
Donc là, qu'est-ce qu'on a pris en compte? L'évolution du prix des logements, plus ça monte, plus ça va dans le bon sens pour faire cette transformation.
Oui, parce que ça veut dire que la demande augmente aussi.
Totalement. Voilà. Et donc, on prend aussi en compte le taux de création de logements.
Mm-hmm.
On va aller sur les territoires là où on est dans le bâti, où on a des créations de logements. Donc, ça, c'est le deuxième point. L'offre de transport est aussi prise en compte de manière assez significative dans l'indice. Et enfin, le solde migratoire pour voir l'attractivité d'un territoire, le nombre d'entrants par rapport au nombre de sortants. Et ça, c'est la dynamique résidentielle.
Okay.
Et il faut aussi qu'il y ait une bonne dynamique résidentielle, là où on a une dynamique tertiaire défavorable.
C'est ça. Donc ça veut dire, et aussi, donc, dynamique résidentielle, donc beaucoup de gens qui veulent s'y installer, une forte demande, et effectivement, un bon taux d'équipement, de transport, il faut que la région, il faut que le lieu soit plutôt bien connecté.
Totalement. Et à ça, dernier indicateur qu'on ajoute pour avoir notre indice global, c'est finalement le lien entre les deux, entre le tertiaire et le résidentiel, qui est l'équation financière. il faut qu'on ait un gap assez important entre le prix de sortie du logement et le prix d'achat d'un immeuble de bureau de seconde main vacant.
Ça veut dire qu'il faut baisser un peu le prix de sortie ?
Il faut soit que le prix de sortie de logement soit élevé, parfois plus élevé, et parfois il ne l'est pas assez dans certains territoires, d'où le potentiel défavorable, alors que pourtant on a beaucoup de bureaux et une certaine demande en logement, mais l'écart entre logement et bureau n'est pas assez suffisant pour pouvoir rendre viables ces opérations. Ou alors, il faut que dans certains territoires, les prix des bureaux baissent encore davantage.
C'est ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a une appétence pour cette question ?
Clairement.
Oui, ouais,
clairement. Oui, clairement, il y a une appétence puisque on est très demandé depuis qu'on a fait cette étude. Voilà. J'ai fait plusieurs indicateurs dans ma petite carrière et je peux vous dire que celle-ci est assez demandée. Elle est très relayée, très médiatisée et on sent que ça, met de l'intérêt. On a fait un groupe de travail.
150 000 logements, c'est quand même considérable.
Ça serait énorme. Ça ne va pas résoudre la crise du logement dans la totalité, mais c'est un vecteur parmi d'autres qui pourrait finalement davantage fluidifier ce marché résidentiel qui, comme vous l'avez dit, est surtendu.
C'est quoi un peu vos objectifs maintenant que vous avez identifié ces 150 000 logements qui pourraient être créés ? Quels sont vos prochains objectifs ?
Alors, nos objectifs maintenant, c'est d'aller voir à la fois déjà les acteurs de cet immobilier, c'est-à-dire investisseurs, promoteurs, pour leur montrer finalement cette carte et pour leur dire là où se concentrer, là où on a les zones finalement les plus favorables, où on peut y aller déjà plus facilement, mais également s'interroger sur les freins, les faiblesses de certains territoires pour potentiellement les lever, les corriger, si cela est en notre main. Ça, c'est moi donc prochainement acteurs. Et deuxièmement, également les élus, les locaux. On les voit et on va les revoir pendant les prochains mois pour déjà leur montrer, et ça, ils ont besoin de données, de mieux comprendre leur territoire. D'un point de vue résidentiel, c'est bien compris. C'est souvent moins bien compris d'un point de vue tertiaire, puisque finalement, les données sont moins accessibles et on s'y intéresse moins naturellement lorsqu'on n'est pas de la partie.
Ouais.
On va offrir ces données-là, on va les proposer, on va les benchmarker, et ça pourra finalement aider davantage à prendre des décisions et à voir là où ça freine dans certains secteurs, et parfois on peut être assez surpris.
Oui, parce que tout n'est qu'une question de pédagogie, finalement. À partir du moment où les gens comprennent l'intérêt d'une telle démarche, il y a beaucoup moins de freins, en tout cas, pour la rendre possible.
Clairement, et ça aide. Et il faut comprendre, il faut par exemple que certains élus locaux se rendent compte de la situation et de la gravité de suroffre qu'on peut avoir dans certains secteurs, avec des taux de vacances de plus de 20-30%, que ça va encore progresser, que c'est pas la croissance économique ou autre qui va faire revenir ses utilisateurs, et donc il faut faire quelque chose.
Où est-ce qu'on peut retrouver les résultats de cette étude ? Vous avez un site internet où elle est publiée ?
Alors, elle est publiée, on a un site internet sur lequel on a la méthodologie de l'étude, on a les participants, on a les principales conclusions, et plus encore, secteur par secteur, vous avez les résultats.
Si vous aviez un appel à lancer là, pour la poursuite de votre projet ?
L'appel à lancer, c'est qu'on se mobilise davantage entre acteurs publics, politiques et privés pour finalement lever ces freins d'un point de vue local, d'un point de vue global, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de friche tertiaire dans la première région française.
Eh ben merci beaucoup Richard Mal. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'ORIE, vous êtes également professeur des universités associées au CNAM et directeur stratégie chez Colliers International. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.